Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Florence Cohen.
Avec ce soir un invité qui est partout à la télé mais dont vous ne connaissez pas forcément le nom puisqu'il est derrière la caméra et non pas devant. Bonsoir Tristan Carnet.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des réalisateurs les plus demandés du petit écran et vous êtes le réalisateur de The Voice sur TF1 dont la 6e saison sera lancée samedi prochain. C'est pour ça qu'on vous invite. C'est toujours aussi exaltant la 6e année ?
Toujours aussi exaltant. On se demande toujours s'il va y avoir des talents aussi performants et aussi touchants que les années précédentes, et c'est le cas. À chaque fois, on est bluffé.
Eh ben voilà, on a plein de questions à vous poser avec Julien Belvert de Pure Média. Bonsoir Julien.
Bonsoir Florence.
Et le débat va porter dans un instant sur...
Sur De Chavannes, Boccolini, Arthur, pourquoi TF1 fait-elle du neuf avec du vieux ? On en débat avec Alexandre Ledrolec de L'Obs et bien sûr Laurent Marsic.
A tout à l'heure pour le débat et tout de suite l'actualité des médias. Patrick Sébastien s'excuse et reconnaît s'être planté. L'animateur l'écrit dans un tweet au lendemain de son émission Le Grand Burlesque sur France 2. Un programme étrillé par les internautes qui l'ont trouvé ringard, vulgaire et pas drôle. Le Parisien titrait même ce matin Le Grand Burlesque, le grand malaise. Patrick Sébastien s'associe ironiquement à la jouissance de ceux qui ne l'aiment pas. Fin de citation. LCI veut muscler ses fins d'après-midi avec des débats d'éditorialistes. La chaîne du groupe TF1 va les lancer dans 8 jours à 17h, juste avant l'émission d'Yves Calvi. Les protagonistes seront, entre autres, Renaud Dely de Marianne, Nicolas Bétou de L'Opinion ou encore Mathieu Croissando de L'Obs. Canal+ se donne 3 ans pour ramener sa chaîne d'info iTélé à l'équilibre financier. iTélé va devenir CNews le 27 février. Pour atteindre l'objectif, il lui faudra réaliser par exemple une part d'audience d'1% au moins sur les cadres supérieurs. Pour l'instant, elle en est loin. Jean-Pierre Elkabbach, Patrick Poivre d'Arvor et Rachid Arab arrivent sur CNews. SFR va tester les spots de pub ciblés à la télé. Ce sera le cas sur sa chaîne BFM Paris. Vous aurez des spots différents en fonction de votre localisation. Pour l'instant, ce procédé n'est possible que sur les chaînes télé locales. Le groupe espère attirer de nouveaux annonceurs.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Florence Cohen.
Le réalisateur Tristan Carnet est donc avec nous ce soir. Vous êtes aux manettes de The Voice, le télécrochet de TF1. La 6e saison sera lancée samedi prochain. Alors, déjà, pour que nos auditeurs comprennent bien, un réalisateur en télé, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Alors, un réalisateur en télé, il met en image une émission. C'est-à-dire qu'il... d'abord, il essaye de montrer aux téléspectateurs ce qu'il voudrait voir s'il était en plateau.
Vous êtes l'œil du téléspectateur.
Voilà,
finalement.
On est l'œil du téléspectateur. Vraiment, on essaye de poser la caméra là où le téléspectateur poserait son œil s'il était en plateau. Quand un talent chante bien, par exemple, typiquement dans The Voice, on se demande si on a envie de voir le talent pousser une note très forte... et ouvrir sa bouche, ouais. Et on sent la pression qu'il a à mettre cette note-là, ou bien est-ce qu'on va passer un plan du coach parce qu'il est ému lorsqu'il entend cette note-là ? Ça, c'est vraiment ce que je fais, moi, pendant l'émission. Ça s'appelle réaliser une émission et mettre les caméras là où il faut au bon moment.
Oui, cela veut dire que vous commandez toutes les caméras qui sont sur le plateau de The Voice, et on sait qu'elles sont très très nombreuses, non, sur The Voice. Vous avez combien de caméras à commander à distance ?
Alors, j'ai pas le même nombre de caméras selon les émissions. Je crois qu'on est à 13 ou 14 caméras sur les blinds et les battles, et un petit peu plus sur les directs. On doit être à 16 sur les directs parce que c'est un gros plateau, donc on a encore plus de choses à montrer. On est en direct, il faut rien louper.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans The Voice ? J'imagine déjà que le fait que les coachs soient soit de face, soit de dos, ça représente déjà une petite contrainte supplémentaire, non ?
Oui, alors évidemment, il faut avoir vraiment l'œil sur la partie des blinds. On essaye, comme je vous le disais, de montrer à la fois le stress du talent qui rentre et qui se retrouve face à ces 4 fauteuils. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de montrer. J'ai une caméra qui est dans l'axe de ce que voit le talent quand il arrive sur scène. J'accompagne d'ailleurs son entrée avec un steadicam, c'est une caméra portable comme ça, assez fluide, qui permet de vivre un peu... l'entrée du talent.
On marche avec lui, en
voilà,
fait.
On marche avec lui, et quand on est devant son poste, on a le même sentiment que ce que lui ressent quand il arrive en plateau, de voir ses 4 fauteuils et puis ce public qui est très nombreux sur le plateau. Et après, pendant la chanson, bah, je montre les coachs qui hésitent. Il y a vraiment des moments où ils ne savent pas s'ils vont y aller ou pas. Leur main se rapproche du bouton, puis ils la rangent, ils ne savent pas, ils hésitent, ils se regardent entre eux. Et c'est tous ces petits regards que j'essaye de capter, parce que voilà, c'est les moments où je pense que le téléspectateur chez lui, selon qu'il aime ou pas le talent, on va se dire j'espère qu'ils vont y aller, ou au contraire non, n'y allez pas, je trouve qu'il est pas bon. Voilà, c'est
Alors, The Voice, Tristan, ce n'est pas une émission française, c'est un format étranger. Est-ce qu'il y a une bible pour cette émission ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire en termes de réalisation et des choses que vous n'avez pas le droit de faire ? Comment ça se passe ?
Alors, quand Shine a repris The Voice avec Mathieu Grelier, qui était le producteur, on est allé dans différents pays. On est allé en Allemagne, en Italie, je crois, pour voir un petit peu comment les émissions se fabriquaient. Et on a changé des choses, par exemple, typiquement sur le live. Les premières années, nous, on a mis l'orchestre sur le côté, ce qui ne se faisait dans aucun autre pays. Voilà. Et puis, je sais aussi que d'un point de vue éditorial, par exemple, sur les directs, ils ont organisé, plutôt que de faire chanter tous les talents et à la fin faire un long tunnel d'élimination, ils ont décidé de faire chanter les talents d'un coach, puis une phase d'élimination, puis les autres talents, puis une deuxième phase d'élimination, ce qui, du coup, rythmait beaucoup plus les directs et ce qui, même, je crois, est devenu un exemple pour les autres pays qui ont adapté, du coup, cette formule française. Donc, il y a effectivement, il faut rester dans les codes et tout ce qui est l'habillage, le code couleur du plateau, etc., c'est du rouge, c'est du noir, c'est comme le The Voice du monde entier. En revanche, on peut amener comme ça quelques modifications.
Comment ça se passe avec le présentateur, Nikos, avec les coachs Pani, Pokora, Zazie, Mika? Ils vous demandent des choses, tout cela?
Franchement, ils n'ont pas de demande particulière, en tout cas pas d'un point de vue de la mise en image. On a au contraire, on a cette confiance qui s'est un peu révélée au fil des années et on se connaît tellement bien que du coup, moi, je sais un peu plus anticiper leurs réactions et je sais aussi ce qui met Nikos dans une position de confort. Donc, j'essaye de lui rendre l'émission la plus confortable possible.
Alors, Tristan Carnet, vous parliez des chanteurs que vous filmez aussi dans d'autres circonstances. Moi, je vais vous parler justement du spectacle des Enfoirés. C'est la première fois que vous le réalisez cette année. C'est impressionnant de reprendre un flambeau pareil. Vous êtes arrivé dans quel état d'esprit ?
Alors, je suis arrivé, je pense vraiment, assez flippé. Assez flippé parce qu'effectivement, c'est une grosse machine. Je pense que c'est la plus grosse machine de la télévision française.
Qu'est-ce que vous avez cherché à faire dans ce spectacle ? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en image, montrer ?
Bah, là, par exemple, moi, d'un point de vue de réalisation aussi, j'ai essayé de faire quelque chose que je ne voyais pas avant dans Les Enfoirés, qui est par exemple l'utilisation de cette caméra dont je vous parlais, qui est le Steadicam, qui permet de pouvoir vraiment être avec les artistes sur la scène, puisque cette caméra se balade au milieu des artistes sur les différents tableaux. Ça, je pense que ça va être un peu une nouveauté pour les téléspectateurs qui connaissent bien cette émission. Ils vont, pour ceux qui ont vécu les concerts à Toulouse, pouvoir, quand ils vont revoir la diff, le vivre complètement différemment avec un regard et un angle de caméra qui est très particulier. Donc ça, c'était un peu mon enjeu. Puis après, c'était évidemment d'essayer de retranscrire là aussi l'ambiance qu'il y avait dans ce Zénith de Toulouse, qui était dingue. Il y avait 10 000 personnes le soir. Les concerts durent longtemps parce qu'il faut savoir que quand on tourne Les Enfoirés, il y a des coupures entre les différentes chansons, des coupures techniques qui évidemment disparaissent au montage quand c'est diffusé sur TF1, mais que le public qui est dans le Zénith vit.
Il les subit un petit peu, oui.
Ouais, il les subit. C'est des tournages qui durent 4h30, mais c'est dingue de voir à quel point le public à aucun moment ne flanche, garde toujours la même pêche jusqu'à la fin et même met de l'ambiance entre les morceaux, ils chantent, ils font des vagues. Enfin,
c'est important le public dans la réalisation de ce genre d'émission.
C'est important de montrer comme ils sont contents d'être là, à quel point ils sont heureux de voir tous ces artistes réunis. Enfin, et puis je pense qu'ils viennent chercher un truc assez unique dans Les Enfoirés, qui sont ces tableaux, qui sont à chaque fois des tableaux très travaillés. Je sais que c'est une des exigences de la productrice d'Anne Marcassus et une exigence qu'avait aussi Jean-Jacques Goldman, de savoir que les chansons doivent raconter des choses. Donc on a essayé de raconter quelque chose à chaque chanson.
Et d'épurer en même temps aussi un peu. On a l'impression que c'est plus épuré que ce qu'on a pu constater avant.
Il y a vraiment de tout. Il y a des tableaux très épurés, très simples. Et puis des tableaux un peu plus chargés. Je pense que les gens aussi ont envie de voir des tableaux qui sont un peu plus, entre guillemets, comédie musicale, quoi.
Alors Tristan Carnet, réalisateur, c'est aussi tout ça.
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Donc, Danse avec les stars sur TF1, Quotidien sur TMC. Vous avez fait aussi Splash, Le Grand Journal, Le Téléthon, Le Discours de François Hollande au Bourget en 2012. C'était également vous. Ainsi que les débats politiques, débats des toutes récentes primaires, de droite comme de gauche. Alors ça, c'est encore un autre exercice. Vous avez été aussi à l'aise là-dedans que dans le divertissement, Tristan Carnet ?
C'est des exercices que j'adore. Une des particularités de mon métier, c'est effectivement de faire, par exemple, un débat politique et le lendemain d'aller faire Danser avec les stars et puis le surlendemain d'aller faire Quotidien. Donc très agréable d'avoir des semaines qui ne sont pas les mêmes. Après, je pense que l'objectif, finalement, est toujours un peu le même, étonnamment, qu'on fasse The Voice ou qu'on fasse un débat politique. Si on considère que réaliser une émission, c'est montrer aux téléspectateurs ce qu'ils voudraient voir sur les débats politiques, c'est exactement la même chose. Lorsqu'un candidat dit quelque chose de dur sur un autre candidat, est-ce qu'on est sur le candidat qui parle ou sur celui qui écoute ? Là, il y avait une particularité sur les débats dans, des primaires de droite comme de gauche, c'est qu'on avait le droit d'insérer des plans de coupe. Mmh. Les plans de coupe, c'est le plan d'un candidat qui écoute l'autre candidat. Et vous savez que sur, par exemple, les débats d'entre-deux-tours des présidentielles,
c'est interdit.
Depuis Mitterrand, je crois que c'était Serge Moati à l'époque qui avait conseillé d'enlever les plans de coupe. Et depuis, ça n'a jamais été remis. D'ailleurs, la question, je pense, va se poser réellement sur le débat d'entre-deux-tours de ces élections-là, puisque précisément, sur les débats des primaires, on a eu le droit de passer les plans de coupe, ce qui était très intéressant.
C'est beaucoup plus vivant, d'ailleurs.
C'est beaucoup plus vivant, et puis surtout, ça raconte quelque chose. On a envie de voir si un candidat acquiesce sur ce que dit l'autre candidat, ou si, en revanche, il fait une moue dubitative.
Enfin, et justement, comment on fait pour que personne ne soit lésé, pour qu'on capte pas une grimace au mauvais moment, pour que, voilà, comment vous faites tout ça alors qu'on est en direct, on est vraiment dans le truc?
Oui, alors c'est vrai que ça... Passer un plan en direct, ça peut aller très vite, hein. C'est une fraction de seconde, parce qu'effectivement, moi, quand je regarde ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire les images de mes différentes caméras sur le plateau, et si je vois qu'à un moment, un candidat fait une moue, je la passe vraiment très rapidement. Mmh. J'ai quand même une fraction de seconde où je vérifie ce qui se passe. Donc voilà, on essaye de vérifier ça. Et puis moi, j'ai fait quelque chose sur les débats, c'est que j'avais une script. Donc la script, c'est une personne qui travaille à côté de moi et qui me donne les temps d'émission, qui est là pour m'aider un petit peu, me dire attention, ça se passe sur la caméra 5, la caméra 6, etc. Elle m'aide un petit peu. Et je lui avais demandé de comptabiliser le nombre de plans de coupe que je passais par candidat. Ce qui m'a permis en fait de garder une équité et qu'on puisse pas me reprocher après d'avoir passé plus un candidat qu'un autre. Donc par exemple, sur les primaires républicaines, j'ai autant de plans de coupe de poissons que de Sarkozy.
C'est stressant de réaliser un débat politique. Comment vous le gérez ?
C'est stressant, c'est-à-dire qu'on sent le stress des candidats. Chaque candidat qui arrive sur un plateau, c'est un enjeu. Alors, c'est un enjeu quand ils sont 7, c'est évidemment un enjeu supplémentaire quand ils sont 2 pour un face-à-face. C'était le cas pour Fillon-Juppé ou Valsamon. On sent la tension, c'est leur dernière ligne droite. Donc le stress que moi j'ai quand je réalise ce type d'émission, d'abord c'est qu'il n'y ait pas de problème. Parce que franchement... S'il y a un problème de caméra, par exemple, ou de lumière sur un des candidats, très vite, on va nous dire, ça peut nous retomber dessus. On peut dire, oui, mais ce problème, il était calculé, on a voulu privilégier un tel. Quand on lance le générique fin et qu'il n'y a pas eu de problème, déjà, on est assez content.
Vous êtes très pédagogue avec les candidats, hein. Vous allez les voir avant l'émission, généralement, pour leur expliquer où sont les caméras, comment l'émission va se passer. C'est important de les rassurer avant un direct aussi important.
Oui, on les rassure. En fait, je pense qu'un plateau, c'est quelque chose qui n'est pas très naturel. Parce qu'il y a des projecteurs, il y a des caméras, il y a des machines. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous prend un peu par la main et qui nous explique comment ça va se passer, que tout va bien, qu'on est dans une ambiance plutôt confortable. Et donc, les candidats, je pense que quand ils arrivent sur une émission politique, ils ont aussi le même besoin d'être rassurés, de savoir qu'ils ont de l'eau sur leur droite, qu'ils vont bien s'entendre, que malgré la distance, par exemple, quand ils sont 7 candidats sur les primaires de droite ou de gauche, les deux candidats qui sont aux extrémités sont assez éloignés. Oui. Donc ils peuvent avoir cette inquiétude de savoir s'ils vont bien entendre. Donc on les rassure, on leur dit que derrière eux, il y a une enceinte qui relance le son et que tout ça est géré, contrôlé. Et que, voilà, on essaye de les mettre dans la position la plus confortable possible.
Alors, Tristan Carnet, on l'a dit, vous travaillez pour beaucoup de monde, beaucoup de chaînes. Déjà, un tout petit peu de pédagogie pour que là aussi nos auditeurs comprennent bien comment, alors que les animateurs sont évidemment campés chacun sur une chaîne, vous pouvez travailler pour tout le monde. Question de statut.
Question de statut historique, je crois. Il y a les réalisateurs, historiquement, ont toujours été libres de travailler dans différentes chaînes. Je pense qu'à part, par exemple, les réalisateurs des JT qui ont, eux, été ou pu être salariés dans les chaînes, les réalisateurs comme moi et d'autres bien avant ont toujours travaillé pour différentes chaînes, ouais.
Quel programme aimeriez-vous réaliser, qu'il existe ou qu'il soit à inventer d'ailleurs ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire, que vous n'ayez pas encore fait aujourd'hui ?
Alors, je vous donne un petit scoop du coup, parce que je travaille sur un projet de fiction en direct.
Pour quel
long métrage ? Alors, j'ai les chaînes, je suis en train de les voir pour l'instant les unes après les autres, mais c'est...
C'est votre projet à vous ?
C'est un projet à moi, ouais, que je suis en train de porter. J'avais développé un projet en cinéma en 2006 qui s'appelle Paris, je t'aime. Je sais pas si vous vous souvenez de ce projet, qui était un film fait de 20 courts-métrages dans la histoire d'amour réalisé dans les 20 arrondissements de Paris, réalisé par 20 réalisateurs différents. Il y avait eu les frères Cohen, Gus Van Sant, Walter Salles, plusieurs réalisateurs comme ça qui s'étaient joints à ce projet-là que j'avais imaginé, que j'avais porté et qu'on avait produit avec Claudie Haussard à l'époque, la productrice d'Amélie Poulain. Et là, je suis en train de travailler sur un deuxième projet de fiction qui est donc le concept de faire une fiction en direct.
Quotidienne ?
Non, pour l'instant un unitaire qui sera un unitaire dans lequel les téléspectateurs pourront avoir une vraie interactivité avec leur portable. C'est-à-dire, il y a une vraie raison pour laquelle cette fiction va avoir lieu en direct.
On pourra changer le cours de l'histoire en direct avec son téléphone ?
On pourra soit changer le cours de l'histoire, soit aider les enquêteurs à avancer dans une enquête s'il s'agit d'un polar. Donc c'est un concept que je suis en train de développer, mais que j'ai très envie de porter.
Et vous cherchez acquéreur pour l'instant ?
Oui, j'ai différents. Enfin, ça intéresse pas mal de monde, mais pour l'instant, je travaille vraiment sur le concept en lui-même pour bien l'aboutir. Mais c'est voilà un projet qui m'attire beaucoup.
Eh ben, merci beaucoup Tristan Cardet de nous avoir livré cette information. On suivra. Merci d'être venu dans le studio de RTL, dans les dessous de l'écran, et on se retrouve dans un instant pour le débat.
Merci à vous.
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Florence Cohen.
Le débat des dessous de l'écran, et peut-on faire du neuf avec du vieux ? C'est un peu la question qu'on se pose au vu des programmes télé en ce moment. Avec nous, Laurent Marsic de RTL. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Julien Belvert de Pure Média est toujours à nos côtés, ainsi qu'Alexandre Ledrolec de l'Obs. Bonsoir à vous.
Bonsoir Florence.
Alors si on regarde les programmes de TF1, on va se positionner là-dessus pour le moment. Le retour de Christophe de Chavannes avec The Wall, le retour de Laurence Boccolini hier soir, puis Nikos, Denis Brognard, Arthur... Il y a de nouvelles émissions, mais le casting des animateurs ne se renouvelle pas vraiment, Laurent Marsic. Hein.
Alors, il ne se renouvelle pas vraiment, effectivement. Après, TF1 a toujours conservé des gens qu'elle accompagne sur la durée. Quand on prend des gens comme Arthur, des gens comme Laurence Boccolini, etc. Sans être péjoratif, ce sont des marques fortes qui restent longtemps sur la chaîne et qui jouent un peu comme des petites madeleines aussi pour les téléspectateurs. C'est-à-dire qu'ils sont contents de les retrouver. Ça rappelle parfois aussi des souvenirs. Christophe de Chavannes, ça va rappeler des souvenirs quand on va le voir arriver sur The Wall. L'autre chose aussi qui est intéressante avec ces animateurs-là, c'est que ce sont des gens qui sont capables de raconter des histoires sur la durée, qui ont aussi une capacité à se renouveler. On ne les voit pas tout le temps dans les mêmes rôles. Laurence Boccolini, ce n'est pas la même quand elle était dans le maillon faible, ce n'est pas la même quand elle est dans le grand blind test, ce n'est pas la même non plus quand elle est dans les cerveaux.
Donc ça veut dire que cette continuité, c'est de la stratégie ou on n'a pas trouvé mieux pour parler trivialement, Julien Belvert ?
Bah, le problème de TF1, enfin, c'est qu'ils ont essayé de recruter de nouveaux visages, de nouveaux animateurs. Ils sont allés chercher des animateurs à la concurrence, notamment Estelle Denis, par exemple. Ça n'a pas duré très longtemps, elle a fait quelques jeux. Elle est partie très rapidement parce que les audiences n'étaient pas au rendez-vous. Récemment, Alessandra Sublet, ils sont allés la charger sur le service public. C'était le gros coup de TF1 il y a deux ans. Et en fait, les émissions qu'elle a animées n'ont pas fonctionné. La deuxième partie de soirée, le vendredi soir notamment, les grands prime événements. TF1, en fait, a beaucoup de mal à créer des talents. Elle a beaucoup de mal à lancer de nouveaux talents sur son antenne. Et elle a surtout énormément de mal à piquer les talents à la concurrence et à les mettre à son image. C'est un peu le problème de TF1, alors que d'autres chaînes savent mieux le faire.
Les nouveaux talents ne payent pas en audience sur TF1, en tout cas, Alexandre Ledrolec.
Exactement. Laurent nous disait que ces animateurs étaient des madeleines pour les téléspectateurs. Elles sont aussi des valeurs, sans doute, refuge pour TF1. Et quand on est en crise, comme TF1 l'est en crise d'audience, puisque le mois dernier, je vous rappelle qu'elle est passée sous les 20% d'audience, TF1 est en crise, les grandes chaînes sont en crise. Et qu'est-ce qu'on cherche dans ces cas-là ? Des valeurs refuges. Christophe de Chavannes, Laurence Boccolini, Jean-Pierre Foucault, que sais-je.
Aussi,
tout ça,
ouais.
Ce sont des valeurs refuges que les téléspectateurs connaissent. On minimise la prise de risque au maximum et on se dit, allez, avec ça, ça va passer, ça ira.
Mais ça veut dire que sur TF1, un Laurent Ournac, c'est le contre-exemple, c'est un ovni, Laurent Marsic ?
Pour modérer un peu ce que disait Julien, ils ont parfois eu la capacité à créer et à faire connaître des nouveaux talents. Si on prend Christophe Beaugrand, par exemple, c'est quelqu'un qu'ils ont réussi à faire monter. Après,
il lui faut à moitié confiance. Tu vois, il le place sur des petites chaînes de la TNT, mais pour des gros primes sur TF1, pour une quotidienne en access, par exemple, il a fait plein de pilotes de jeux. Bah, Christophe de Chavannes, en effet, c'est un nouveau talent. Ils auraient pu le parier sur lui, le mettre en avant. Christophe Beaugrand. C'est un nouveau talent, ils auraient pu parier sur lui, le mettre en avant quotidiennement, mais ils ont un peu de mal. Alors on le met sur 21, on le met parfois sur TMC, mais on ne lui fait pas confiance comme une autre chaîne pourrait le faire, comme M6 par exemple.
Alors si on poursuit en dehors de TF1, cette fois, que dire à l'aune de notre débat du retour du jeu de la vérité avec Patrick Sabatier qui a l'air de se préparer sur C8, Alexandre Ledrolec ?
On parle effectivement du retour du jeu de la vérité pour début 2017. Alors ce qu'on peut en dire, et encore une fois, c'est qu'on est frileux dans les chaînes, c'est-à-dire à lancer des nouveaux programmes, des nouveaux formats. Pourquoi ? Il y a une raison assez simple, c'est qu'on évite aussi la case création, création de jeu qui prend du temps, ça prend de 6 mois à 1 an, ça coûte entre 100 000 et 200 000 euros. Donc on évite, on saute cette étape-là qui peut être un peu fastidieuse pour les chaînes.
Sans compter que les nouveaux talents proprement dit, voilà, c'est payant ou ça l'est pas. Regardez France 2, Julien Belvert avec Thomas Touroud, avec Amanda notamment, c'est pas payant en l'occurrence.
Bah, c'est un petit peu le contre-exemple. France 2 a fait un effort particulier cette saison en lançant deux nouveaux visages, notamment l'après-midi, avec Thomas Touroud qui était un peu connu sur Canal+, mais uniquement des initiés, avec Amanda, avec Laïla Kadour notamment, aux 20h, avec Bruno Guillon. Le problème de France 2, c'est qu'ils les ont lancés annoncés tous en même temps.
Donc,
pour le téléspectateur, il a été complètement paumé, notamment l'après-midi, où il n'y avait que des émissions qu'il ne connaissait pas, présentées par des animateurs quasi inconnus. Donc là a été l'erreur de France 2, mais bon, on peut leur reconnaître cet effort-là, de lancer de jeunes talents à côté des Michel Drucker et des Patrick Sébastien, un peu indéboulonnables.
Vous êtes d'accord, Laurent Marcy, que l'intention est bonne, mais trop en même temps, c'est pas possible ?
Oui, effectivement. France 2, après, a connu le même genre de problème aussi, si on remonte plus loin avec l'histoire de Sophia Aram, quand ils l'avaient fait venir sur leur tranche d'accès, ils sont vite revenus à Nagui, qui est pareil, qui est une valeur sûre et qui pour le coup fonctionne très bien.
Alors, ils sont vite revenus à Nagui, mais entre Sophia Aram et Nagui, ils ont aussi fait du neuf avec du vieux, puisqu'ils ont fait appel à Laurent Ruquier.
Oui, c'est vrai.
Alors,
c'est,
avec l'émission Pour tous, qui était peu ou prou la même émission que son ancienne émission qui est le phare des après-midi de France 2, ouais. Et ça n'a absolument pas marché, ça n'a pas pris. Donc, on innove, ça ne marche pas, on fait du neuf avec du vieux, ça ne marche pas, je n'aimerais pas être directeur des programmes de France 2.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. La stratégie de France 2, là, va être pas simple à définir pour les mois, voire les quelques années qui viennent en termes de nouveautés, de nouveaux animateurs, Julien Balvert.
Bah là, il tâtonne, clairement, on le voit, là, il teste en fait de nouvelles émissions par salve. C'est un peu fastidieux, c'est-à-dire qu'on a supprimé un mandat, là on a testé pendant 4 semaines un jeu avec Elodie Gossuin, après ce jeu il y a une nouvelle émission qui va arriver, qu'on va aussi tester, on sait pas trop ce qu'on va faire, si on va mettre du Nagui à la place, une émission produite par Nagui, quels animateurs on va mettre, et surtout sur des périodes très courtes, donc pour le téléspectateur c'est l'enfer, parce qu'on sait que la télévision l'après-midi jusqu'à 18-19h c'est un média d'habitude, donc si vous cassez les habitudes toutes les 4 semaines, bah, vous perdez tous les téléspectateurs que vous arrivez à conquérir, vous les perdez 15 jours après.
Alors que dire maintenant du cas d'M6 qui a l'air de penser pour le coup au coup d'après avec des gens comme Ophélie Meunier, comme Bastien Cadéac, Alexandre Lodrolec?
Effectivement, en tout cas, ils font un effort de renouvellement, ouais. et même en termes de format, on revient encore sur l'émission politique qu'elle a lancée. Là aussi, il y a une vraie création, on ne fait pas du neuf avec du vieux, là c'est vraiment de l'inédit avec un nouveau visage. Et effectivement, il y a cette audace, et pour eux en tout cas, on ne peut pas dire que ça les pénalise, puisque leur audience est relativement stable, on est aux alentours de 10% de part d'audience, plus ou moins.
Oui, Julien Balvert.
M6, c'est vraiment un cas à part, c'est vraiment une chaîne qui a réussi à créer des talents, à les estampiller M6, les Christina Cordula, Karine Le Marchand, Stéphane Plaza, Stéphane Rothenberg, quand on les voit, on pense M6. On n'imagine pas les voir d'ailleurs sur une autre chaîne. Et quand TF1 va chercher Estelle Denis, ça ne fonctionne pas, parce qu'elle est tellement affichée, vue à la télé sur M6, que ça ne fonctionne pas. Donc M6, ils ont réussi ce coup de maître, c'est de créer des talents, de les garder chez eux, et surtout d'en faire des succès. Donc en effet, ils tentent le renouvellement avec Ophélie Meunier, ça marche plutôt pas mal le week-end. C'est un peu moins vrai avec Bastien Cadéac qui a remplacé François-Xavier Ménage. En gros, M6, quand ils vont chercher les talents à l'extérieur, ça marche rarement. En revanche, quand ils créent eux-mêmes leurs propres talents, s'ils arrivent à les garder pendant de longues saisons, ça marche très bien.
D'accord, Laurent Marcy.
Oui, avec la particularité pour M6, c'est que c'est peut-être la chaîne où le concept est plus fort que l'animateur. C'est-à-dire qu'ils ont des émissions, si on prend Zone ou Capital, où
l'émission existe plusieurs fois.
Exactement, l'animateur a changé plusieurs fois, l'émission existe toujours, et là, c'est plus le concept. Ouais.
À part Bernard de la Villardière qui dit « Je suis un concept à moi tout seul », et voilà. il n'a pas tort.
Parenthèse refermée. Vous parliez, Julien Balvert, de ces animateurs étiquetés M6. Il y a aussi ces animateurs qui sont associés, dont le nom est associé à une chaîne. Quand vous pensez C8, vous pensez à Hanouna. Quand vous pensez TMC, vous pensez Quotidien, Yann Barthès, Alexandre Lodrolec.
Oui, mais jusqu'à l'année dernière, quand on pensait Yann Barthès, on pensait Canal+.
Ah, c'est juste. Oui.
Donc, si vous voulez, il y a parfois des grèves qui se font, des grèves qui ne se font pas. Mais là, en tout cas, elle s'est faite. C'est bien la preuve que c'est possible, avec un certain talent d'ailleurs et un certain Ara Aprikian derrière. Mmh. Mais tout ça est quand même possible. Hein. On n'est pas non plus figé dans une chaîne, ou en tout cas pas toujours.
Là, ils ont pris le paquet complet, donc aussi, il y avait une garantie entre guillemets de succès, ou en tout cas, ils étaient sûrs de faire au moins de l'audience.
Julien,
oui, cela montre que les petites chaînes ont absolument besoin d'incarnation pour exister. Donc on l'a vu avec Cyril Hanouna, évidemment, sur C8, TMC renouvelle la même chose avec Yann Barthès, W9, filiale d'M6, essaye aussi avec Bertrand Chamerois d'avoir une espèce de tête de gondole, en fait, pour ces petites chaînes, voilà, de porte-drapeau, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de programmes neufs, et la seule manière d'exister médiatiquement, d'avoir des prises dans la presse et de faire un peu d'audience, c'est d'avoir des animateurs emblématiques. Mais c'est pas évident, hein, Bertrand Chamerois sur W9, ça marche pas très bien.
Qui voyez-vous, vous les spécialistes, comme jeune talent dont vous dites « Ah, si j'étais patron de chaîne, je le ferais bien monter, celui-là,
Alexandre
Lodrolec. »
Alors moi, je ferais bien monter Jean-Pierre Elkabbach, je ferais bien monter Patrick Poivre d'Arvor, et je ferais bien monter Rachid Arab.
Eh ben, voilà du jeune.
Voilà, puisque l'on parle de faire du neuf avec du vieux, moi, ce que j'attends en la matière, c'est notamment le 27 février, le lancement de CNews, où on va assister effectivement à, vraiment, là, on sera d'en faire du neuf avec du vieux.
C'est tout à fait ça.
Et on verra ce que ça donne. Il ne faut préjuger de rien, on ne sait jamais.
Laurent Marsic.
Moi, je regarde de temps en temps, même si ça se termine très très tard, l'émission de Bertrand Chamerois sur W9. Je pense que c'est quelqu'un sur qui je mettrais...
Une petite pièce.
Ouais, une petite pièce, parce que je trouve que le garçon est plutôt sympathique. Après, voilà, il y a des petites choses qui me gênent dans l'émission, dans la construction, dans le déroulé, etc. Mais je trouve que c'est quelqu'un à suivre, ouais.
Julien Valvert.
Bah, dans le même genre, sur C8, Camille Combal, qui fait le pré-access juste avant Cyril Hanouna. Mmh. C'est un garçon qui a beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup d'humour. Je ne suis pas sûr que l'émission qu'il présente aujourd'hui lui corresponde vraiment, mais c'est compliqué parce qu'il est produit par Cyril Hanouna, il est juste avant, donc il ne faut pas qu'il lui fasse trop de concurrence. Enfin, on sait que c'est parfois difficile, mais il a beaucoup, beaucoup de talent. Et je pense d'ailleurs que TF1, M6 le regardent de très près, parce que justement, ils ont besoin un petit peu d'animateurs un peu couteau suisse comme lui.
Et bah, merci à tous les trois d'avoir débattu de ce sujet dans les dessous de l'écran sur RTL. Excellent début de soirée. Dans un instant, on va laisser la place au sport.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.